Et bonne soirée. Avec nous sur France Inter, il est 19h. Hélène Philippe pour le journal. Bonsoir Hélène.
Bonsoir à tous. Il a donc fallu pointer avant d'aller travailler. Le pass sanitaire en entreprise obligatoire pour près de 2 millions de salariés aujourd'hui. Et le gouvernement ne dépensera plus sans compter. On va détailler le calendrier de la fin du quoi qu'il en coûte. Quel dispositif et pour qui? L'Afghanistan, alors que les Américains s'en vont, portrait du chef des talibans, aussi invisible qu'influent, tandis que les images du chaos se font une place au Festival international du photojournalisme en ce moment à Perpignan. Dans ce journal encore, le centre-ville historique de Bordeaux se lézarde après les arrêtés de péril récents. Réunion en ce moment avec les habitants. L'Algérie a épuisé ses stocks, c'est la fin de l'essence au plomb dans le monde et c'est un symbole évidemment. L'US Open de tennis démarre aujourd'hui, on verra si les Français sont en forme. Et puis deux nouvelles médailles aux Jeux Paralympiques, la France égale déjà sa performance de Rio. Et au téléphone sonne Fabienne.
Eh ben nous aussi on passe de l'autre côté du comptoir, vérifier les passes sanitaires des employés, des salariés qui en ont donc l'obligation. Depuis ce matin, cette première journée s'achève. Ben venez nous raconter comment ça s'est passé dans l'entreprise où vous travaillez, si vous accueillez du public, que disent les chefs d'entreprise face aux récalcitrants, quels obstacles savez-vous que vous devrez franchir dans les jours qui viennent. Une avocate, un inspecteur du travail pour répondre à vos questions au 01 45 24 7000.
France Inter. Après les clients, les salariés, employés de bars, de centres commerciaux, de compagnies de cars, le pass sanitaire obligatoire en entreprise, est-ce que ça va coincer? Reportage France Bleu en salle à Orléans, signé Cécile Dacosta.
Dans la plupart des restaurants orléanais, la réponse est la même.
On a tout nos passes.
Clément Benjamin est gérant du Don Camillo. Ses 19 salariés se sont fait vacciner de leur plein gré.
Pour deux raisons. La première, des plus importantes, comme ça on peut rester ouvert. Et puis, on a quand même pas mal de contacts dans la restauration, donc c'est quand même bien d'être vacciné, pour nous et puis pour les autres aussi.
Troisième raison, pour Isabelle Bohen, qui gère la crêperie bretonne. Pour elle, le pass sanitaire, c'est une question d'hygiène.
De toute façon, nous, on est à la pointe de tout ce qui est propreté, hygiène, et ça, ça en fait partie. C'est notre travail. On protège nos clients, on se protège nous-mêmes en même temps.
Au diner, le même fils, tout le monde est vacciné, mais certains émettent quelques réserves, selon le manager Florent Violon.
Il y en a qui étaient contre, donc ils l'ont quand même fait. En cuisine, non, parce qu'on voit personne, donc... On a du mal à comprendre que ce soit obligatoire.
En dehors de l'obligation professionnelle, beaucoup de salariés étaient déjà vaccinés, comme l'explique Véronique Belabre, gérante de la brasserie des Halles.
Il y a aussi l'aspect vie privée qui rentre en compte. Et si on veut continuer à avoir une vie à peu près normale, il fallait être vacciné, que ce soit pour le travail, que ce soit aussi dans la vie privée.
Pour cette première semaine, le gouvernement assure qu'il y aura une certaine tolérance de la part des forces de l'ordre.
Reportage Cécile Dacosta. Certains secteurs ont souffert de la mise en place du pass sanitaire, comme les centres commerciaux, qui réclament ce soir sa suspension pour la période de rentrée scolaire au moins. Mais globalement, il n'a ralenti ni la consommation ni la croissance. C'est ce qu'affirme le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui actait cet après-midi la fin du quoi qu'il en coûte. Et sa mesure phare, le fonds de solidarité, ce sera fini le 30 septembre, sauf pour l'outre-mer. 500 000 entreprises y ont eu accès en mai, 10 fois moins au mois de juillet. Mais un autre dispositif va prendre le relais pour ne pas laisser les entreprises qui souffrent encore en rase campagne. Qu'est-ce qui est prévu exactement, Philippe Lefebvre?
Tout cela va se passer en deux temps. Le fonds de solidarité qui devait s'arrêter demain restera en vigueur pendant un mois, mais sera réservé aux entreprises ayant réalisé en août au moins 15% de leur chiffre d'affaires d'avant la crise. Tout cela pour éviter ce que le gouvernement appelle des effets d'aubaine pour les entreprises ayant choisi de rester totalement fermées. Une bonne mesure pour Didier Chenesse, c'est le président du groupement national des hôteliers indépendants.
C'est une bonne façon de traiter les affaires. Là au moins, ceux qui sont directement concernés seront indemnisés.
Ensuite, à partir du 1er octobre, l'État prendra en charge une partie des coûts fixes, c'est-à-dire la différence entre les charges de l'entreprise et ses revenus. 70% des coûts fixes seront pris en charge pour les entreprises de plus de 50 salariés et 90% pour les entreprises de moins de 50 salariés. Une annonce rassurante pour Roland Aiguy, c'est le président de l'Union des métiers de l'hôtellerie.
Il y a vraiment une volonté de maintenir ces entreprises qui sont en difficulté, de pouvoir les sortir la tête de l'eau, quoi. Sur les entreprises de moins de 50 qui sont quand même très fragilisées, le dispositif va être beaucoup plus rapide.
Reste une inconnue toutefois, le plan d'action complémentaire annoncé par par Bruno Le Maire pour les agences de voyage, les professionnels de la montagne ou de l'événementiel, qui redoutent que ce plan ne se limite en fait qu'à des campagnes de publicité.
Le quoi qu'il en coûte, c'était aussi l'activité partielle qui a protégé l'emploi pendant des mois, 36 milliards d'euros dépensés, moins avantageuse désormais pour les entreprises avec un reste à charge de 40% et pour les salariés, 72% de leur rémunération nette au lieu de 84%. Et le travail à distance, eh bien, une nouvelle version du protocole sanitaire en entreprise sera publiée demain, sans obligation de télétravail désormais. Beaucoup d'entreprises abordent cette rentrée avec une organisation hybride.
À 19h et presque 6 minutes, Hélène, les portes de l'Afghanistan se referment.
Tout dernier départ ce soir d'un avion américain. Les menaces visant l'aéroport restent réelles, précises même, fait savoir le Pentagone. Des tirs de roquettes ont d'ailleurs été revendiqués par le groupe État islamique cet après-midi. Les talibans affirment pouvoir s'en occuper, mais ils n'ont encore pas formé de gouvernement et leur chef Akhundzada demeure invisible. Les talibans n'ont diffusé qu'une seule et unique photo de lui. Valérie Krova est à Doha. Valérie, qui est cet homme qui semble d'une discrétion absolue ?
Sa discrétion alimente le mythe qui l'entoure depuis sa nomination en 2016 à la tête des talibans. On dit que le mollah Akhundzada vit en reclus à Kandahar, terre natale du mouvement islamiste. À 60 ans, ce pachtoun érudit, spécialiste des questions judiciaires et religieuses, a combattu les soviétiques dans les années 80 avec un groupe d'étudiants en religion qui vont constituer le noyau dur des talibans. Après la prise de Kaboul en 96, Hibatullah Akhundzada, qui fut le principal conseiller religieux du mollah Omar, fondateur du mouvement, préside des tribunaux islamiques, puis devient ministre pour la promotion de la vertu et de la répression du vice. Depuis la mi-août et leur retour à la tête du pays, les talibans n'ont communiqué sur aucune de ces activités, vraisemblablement pour des raisons de sécurité. L'un de leurs porte-parole à Kaboul a laissé entendre qu'il apparaîtrait bientôt, peut-être dès demain, lorsque toutes les troupes américaines auront quitté l'Afghanistan.
L'Afghanistan qui est au centre d'une nouvelle réunion du Conseil de sécurité de l'ONU aujourd'hui, avec cette question toujours, comment protéger ceux qui restent, ceux qui veulent fuir encore après le départ des Américains. La France et le Royaume-Uni plaident pour la création d'une zone protégée dans la capitale afghane et la Russie y est favorable. L'Afghanistan et son chaos, des journalistes en témoignent pour nous, pour France Inter ces derniers jours, des photoreporters en voient aussi leurs images au-delà des murs et des frontières. On va les retrouver pendant un mois à Perpignan, 33e édition du Festival international du photojournalisme Visa pour l'image. Et Alexandra Akhoun, c'est une photo de Kaboul qui illustre le catalogue de cette nouvelle édition.
Une photo qui date de 2001, sur laquelle une femme en burqa bleue marche dans les rues de Kaboul dévastée. Un choix fait il y a déjà plusieurs mois par le directeur de Visa pour l'image, Jean-François Leroy.
C'est vrai que quand on a choisi la couverture du catalogue, on a pris cette photo d'Éric Bouvet parce qu'elle nous paraissait importante. Déjà, on parlait de l'Afghanistan. On n'avait pas pensé que ça irait aussi vite. On avait prévu de faire une rétrospective sur les 20 ans de présence américaine en Afghanistan. Ça, c'était prévu de très longue date et maintenant, on peut le mettre à jour avec les événements tragiques qui s'y déroulent depuis quelques semaines.
Rétrospective qui sera présentée en soirée de projection le 4 septembre. La veille, une table ronde réunira des photographes qui connaissent bien l'Afghanistan. Éric Bouvet, Oriane Zera et surtout Pascal Maître. 36 ans de couverture de l'actualité afghane, des clichés du commandant Massoud qui ont fait le tour du monde et un certain dégoût face à ce qui se passe en ce moment à Kaboul.
On savait que les talibans allaient venir, mais je pensais que et les évacuations et un minimum de sécurisation pour les gens qui voulaient partir allaient être mises en place, quoi. Pas du jour au lendemain comme cela, rien n'a été préparé, c'est quand même assez hallucinant.
Et Pascal Maître, de penser à ces jeunes étudiantes, souriantes et pleines de vie, rencontrées à l'université de Kaboul en novembre 2020, une jeunesse pour qui la porte de la liberté est en train de se refermer.
2600 Afghans ont rejoint la France depuis la semaine dernière, plus de 110 000 exfiltrés au total depuis la reprise en main du pays par les talibans. Emmanuel Macron avait subi les foudres de la gauche le 17 août en appelant l'Europe à se protéger de flux migratoires irréguliers qui nourrirait, disait-il, des trafics de toute nature. Le chef de l'État a nuancé hier, l'Afghanistan n'est pas la Syrie, la situation n'est pas comparable à celle de 2015. Bonsoir Simon Le Baron.
Bonsoir.
Voici une preuve de plus que l'immigration est un enjeu politique majeur de la rentrée et à 8 mois de la présidentielle pour Emmanuel Macron.
Mais oui, vous venez d'en parler Hélène, quand Emmanuel Macron assure le 16 août que nous devons devons nous protéger contre des flux migratoires irréguliers. La gauche s'indigne du cynisme du président. Quand il assure hier qu'il ne faut pas confondre immigration et risque terroriste, là ce sont Marine Le Pen et une partie de la droite qui critiquent une supposée légèreté. Et au fond, eh bien, c'est exactement ce que cherche Emmanuel Macron, apparaître comme la voix de la raison, de l'équilibre face à des oppositions jugées caricaturales. La Macronie sait très bien que ces sujets dits régaliens, immigration, sécurité, identité, ne seront jamais ses points forts. On ne gagnera pas l'élection là-dessus. En revanche, on peut la perdre, résume un très proche du président. Alors le chef de l'État fait tout pour montrer qu'il agit sur l'Afghanistan, bien sûr, mais aussi par exemple sur Mayotte, où Gérald Darmanin et Sébastien Lecornu viennent d'annoncer des moyens supplémentaires contre l'immigration clandestine. Surtout, ne pas subir, donc, même si au gouvernement on est bien conscient qu'il n'y a pas de baguette magique. La seule solution, c'est une politique migratoire européenne, explique un ministre. Le problème, c'est que c'est long à mettre en œuvre et surtout difficile à vendre en campagne électorale.
Simon Le Baron pour l'explication. Beaucoup de questions et d'inquiétudes en ce moment à Bordeaux. Une réunion d'information a lieu ce soir, organisée par la mairie avec les habitants du centre-ville historique. Depuis l'effondrement de deux immeubles il y a deux mois, la municipalité traque les signes de fragilité des bâtiments autour. Et il y en a visiblement. Arrêté de péril vendredi, 6 immeubles évacués. Bonsoir Béatrice Duguay.
Bonsoir.
C'est le cœur historique de Bordeaux qui semble vaciller.
Des fissures sont effectivement apparues sur les façades jeudi. Des fondations des immeubles ont semblé dégradées de certains immeubles. Alerte donnée par un syndic de propriété le matin. Risque imminent d'effondrement, a dit l'expert de la mairie. Aujourd'hui donc, 3 rues déviées, circulation de bus détournée, une trentaine de logements évacués au total. Certains locataires ne sont même pas au courant de leur infortune, précise Stéphane Pfeiffer, adjoint au maire chargé de l'habitat.
Tous les habitants ne sont pas encore rentrés, certains sont en vacances. Donc on sait qu'au fil de la semaine et le week-end prochain, on aura certainement plus de relogements. Et c'est vrai que c'est des situations humaines qui sont difficiles parce que d'une heure à l'autre, on vous dit que vous n'avez plus le droit de rester dans votre appartement. Donc vous avez 2 heures pour récupérer des affaires, faire une valise et partir. Donc c'est forcément extrêmement compliqué à vivre.
L'arrêté de péril frappe également 3 commerces. 4 personnes ont été relogées par la mairie. Les autres ont trouvé refuge chez des amis ou la famille. Question, pour combien de temps? L'expert donnera peut-être ce soir des éléments de réponse, mais ça peut se mesurer en semaines ou en mois. Ce qui est inquiétant, c'est cette loi des séries dans Bordeaux, admet Stéphane Pfeiffer.
Là, on est quand même à plusieurs centaines de mètres de l'effondrement qui a eu au mois de juin rue de la Rousselle, donc il n'y a pas de lien direct. Par contre, le point commun, on va dire, entre ces deux adresses, c'est qu'on est effectivement au cœur du centre historique de Bordeaux. On a un habitat qui est ancien et qui se dégrade naturellement. Et puis, la deuxième raison, c'est qu'on a parfois des immeubles qui ne sont pas toujours très bien entretenus par les propriétaires. C'est des situations qui peuvent durer depuis plusieurs années, donc ça se dégrade d'autant plus vite qu'il y a un manque d'entretien.
Depuis l'effondrement mortel des deux immeubles il y a 2 mois, la mairie, vous l'avez dit, a lancé une campagne de dépistage, si l'on peut dire, de l'habitat insalubre et indigne, ce qui fait en ce moment remonter les signalements des habitants et des propriétaires.
France Inter vous le révélait ce matin, un ancien formateur de la Croix-Rouge dans les Hauts-de-Seine est renvoyé en correctionnel, jugé notamment pour agression sexuelle et harcèlement sexuel sur des jeunes bénévoles de l'association Plus Découvre. Les femmes victimes de violences pourront désormais appeler le 3919, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, la ligne d'écoute joignable en permanence.
C'est la fin de l'essence au plomb et c'est tout un symbole.
Près d'un siècle après les premiers avertissements sur ses effets toxiques, l'Algérie était le dernier pays à en utiliser. Le pays a épuisé ses stocks, ça y est, bonsoir Sandy Dauphin.
Bonsoir.
C'est une étape majeure qui sauve des millions de vies, salut les Nations Unies.
Oui, les stations-service en Algérie ont épuisé leur stock d'essence au plomb au mois de juillet, donc officiellement plus aucun pays n'en vend. Il aura fallu 20 ans au programme des Nations Unies pour l'environnement pour éradiquer ce carburant très nocif pour la santé. Risque accru de maladies cardiovasculaires, d'attaques cérébrales, de cancers. L'exposition au plomb peut aussi affecter le développement du cerveau. Le plomb a été ajouté dans l'essence à partir des années 1920 pour lubrifier le moteur et pour son rôle anti-détonant. Les États-Unis sont le premier pays à l'interdire en 1975, mais sa disparition est très progressive. Au début des années 2000, si la plupart des pays riches, dont la France, avaient supprimé l'essence plombée, plus d'une centaine de pays continuaient de l'utiliser. Aujourd'hui, la fin de l'essence au plomb permet d'éviter 1 200 000 morts prématurées par an dans le monde, estiment les Nations Unies. Mais la planète est loin d'en avoir fini avec la pollution automobile, oxyde d'azote, particules fines, émissions de CO2. Les Nations Unies s'inquiètent de l'exposition explosion du trafic routier à venir.
Merci Sandy Dauphin. L'étranger aux États-Unis, le bilan encore très provisoire de l'ouragan Ida. Une personne tuée, les réseaux d'eau coupés pour beaucoup hors service, donc l'électricité coupée dans une grande partie de la Louisiane. Mais Ida s'est affaiblie tout de même ces dernières heures. Et puis en Israël, le Premier ministre fait parler de lui, même quand il est en vacances à Hawaï. Benjamin Netanyahou accusé d'avoir gardé pour lui des cadeaux offerts par des dirigeants étrangers à l'État d'Israël. Frédéric Mettezo est à Jérusalem.
On croirait le catalogue d'une vente aux enchères de prestige. Une Bible annotée par le rabbin Rashi, un célèbre talmudiste français du Moyen-Âge, offerte par Vladimir Poutine. Une boîte en verre, ornée de feuilles d'or, cadeau de Barack Obama. Ou bien le document original signé par Donald Trump, qui ordonne de transférer l'ambassade américaine à Jérusalem. Au total, le conseiller juridique de l'actuel gouvernement demande à Netanyahou et à son épouse Sarah de rendre 42 cadeaux. Leur porte-parole affirme que cette affaire est totalement imaginaire et qu'ils n'ont pas gardé ces présents, pourtant toujours introuvables. Les médias israéliens s'interrogent aussi sur leurs vacances dans un hôtel somptueux à Hawaï, où Benjamin Netanyahou a dîné avec un homme d'affaires américain, cité comme témoin par l'accusation dans son procès. Quant au fils aîné, Yair, 30 ans, qui vit toujours avec ses parents, une cour d'appel a confirmé hier sa condamnation à 60 000 euros de dommages et intérêts pour avoir diffamé un journaliste. Ce dernier avait prouvé que Yair, sans emploi déclaré, disposait de 250 000 euros sur son compte en banque. Jérusalem, Frédéric Mettezo, France Inter.
C'est le retour du public sur les courts de tennis de l'US Open.
Et on espère bien du spectacle. Novak Djokovic en grand favori en l'absence de Roger Federer et Rafael Nadal. Il vise même le grand chelem calendaire, Open d'Australie, Roland-Garros, Wimbledon. Il ne lui reste que l'US Open à gagner. Fabrice Abgral est aux manettes pour nous faire vivre l'événement. Il y a des Français aussi sur les courts, Fabrice. Qu'est-ce qu'on peut en attendre ?
Sincèrement, pour tous les Français, pas grand-chose. Hein. Faut-il rappeler que coup sur coup, aucun Français n'a franchi le cap du deuxième tour, hein, que ce soit à Roland-Garros ou Wimbledon cette année. Et rien ne dit que ce sera mieux à l'US Open, à moins que l'imprévisible Gaël Monfils, le numéro 1 français, retrouve son meilleur niveau. Hugo Humbert est actuellement sur le court, c'est le numéro 2 français. Il est mené 2-7-1 face à l'Allemand Peter Gojovzik, un joueur classé 141e mondial. Benoît Paire, lui aussi, est mené 2-7-1 face au Serbe Dusan Lajovic. La mauvaise nouvelle, c'est le forfait de Joe Wilfried Tsonga. Le Monceau est blessé au mollet droit. Il a donc préféré renoncer. Tsonga est 98e mondial. Il ne serait pas étonnant qu'il annonce sa retraite avant la fin de l'année. Et que dire de Richard Gasquet? C'est quasiment mission impossible pour le Biterrois opposé aujourd'hui au Russe Daniil Medvedev. Le numéro 2 mondial est l'un des prétendants au titre. Le match est prévu la nuit prochaine à 3h du matin, heure française. Et côté française, il n'y en a que 5 en lice cette année. Pas grand chose à espérer, d'autant qu'aucune d'entre elles n'est tête de série. Ce serait déjà un exploit si elles arrivaient en deuxième semaine.
Vous parlez des femmes, Fabrice, en l'absence de Serena Williams. Les favorites, eh bien, il y en a deux. La japonaise Naomi Osaka, tenante du titre, et l'australienne Ashley Barty, l'US Open. C'est jusqu'au 12 septembre. En bref, la France 15e au tableau des médailles des Jeux Paralympiques à Tokyo pour l'instant. De l'or aujourd'hui pour Fabien Lamyrou en paratennis de table. Et de l'argent pour le nageur français Alex Portal sur le 200 mètres 4 nages. Pour certains, c'est un sport et pour certains, une addiction. Les jeux vidéo en ligne, on sait quand on commence, on ne sait pas toujours quand on s'arrête. La Chine décide pour les jeunes, pas plus de 3 heures et uniquement le week-end. C'est la correspondance à Berlin signée Stéphane Pambrin.
Honor of Kings, l'honneur des rois et sa bande-annonce rythmée. C'est l'un des jeux vidéo dans le collimateur des autorités chinoises. Plus de 100 millions de personnes y jouent en Chine chaque jour sur smartphone. Le jeu rapporte gros à Tencent, l'entreprise chinoise qui l'a créé, plus d'un milliard d'euros par an. Beaucoup d'enfants y dépensent des fortunes en achetant des personnages, des équipements ou des pouvoirs magiques. Désormais, il faudra s'enregistrer pour y jouer avec sa carte d'identité. Un système de reconnaissance faciale est aussi intégré pour être sûr que l'on ne joue pas avec le code des parents. Et ce sera la même chose pour tous les jeux vidéo en ligne. Selon la nouvelle réglementation, les utilisateurs de moins de 18 ans ne pourront jouer qu'entre 20h et 21h le vendredi, le samedi et le dimanche, soit 3 heures seulement par week-end. Ça fait quelques semaines déjà que les jeux vidéo en ligne sont dans le viseur des autorités. La presse officielle les a qualifiés de drogue électronique et d'opium mental. Des brigades du net seront chargées de surveiller les plateformes et de s'assurer que ces nouvelles réglementations sont bien appliquées. Pékin, Stéphane Pambrin, France Inter.
Et ce n'est pas que du sport non plus, le foot, alors que le possible transfert de Kylian Mbappé agite la planète footballistique, un chiffre qui donne le tournis, un peu quand même, celui du marché des transferts, sur près de 10 ans, 2011-2020. La FIFA, la Fédération Internationale, estime que les clubs ont dépensé plus de 41 milliards d'euros. Le club le plus dépensier, vous voulez savoir, Manchester Allez-y. City, devant Chelsea, FC Barcelone, et le Paris Saint-Germain est pas loin, puisqu'il est quatrième.
Voilà, au pied du podium, comme on dit, je ne sais pas si c'est le meilleur podium du monde. Hélène Philly, merci beaucoup.